Il y a une atmosphère très joyeuse ici en studio.
Ah, on est hors de l'Afrique maintenant.
Parce que vous savez qui est notre invité.
Non?
Vous ne le savez pas? Quel est votre nom au juste?
Ah, vous savez, quand on vieillit, ça arrive ces affaires-là.
C'est Michel Gailloux que vous entendez, celui que vous écoutez le matin de 7h à 9h à l'antenne de Radio VM, qui sait bien nous réveiller. Et vous allez encore continuer de le faire.
Ben oui. Mais là, quand on fait ça, là, c'est une passion. Hein? C'est une drogue légale. On n'a pas le choix parce qu'on aime ça. Oui. C'est vraiment agréable pour moi d'arriver en studio puis de dire aux gens, il y a des gens qui m'écoutent, je vais leur parler, qui fait frette.
Vous n'avez jamais quitté ce métier. Puis pourtant, quand on regarde votre parcours, vous avez fait des études universitaires dans deux domaines qui sont très utiles, en économie et en communication.
Oui.
Et parallèlement à tout cela, vous continuiez d'être devant un micro et d'animer différentes émissions.
En fait, j'ai eu, l'économie et les communications, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie en psychiatrie. Mais en fait, c'est deux opposés, hein. L'économie, c'est un intérêt pour moi, l'économie, sauf
pourquoi
que...
Pourquoi donc?
Ben, la compréhension, parce que vous le disiez tout à l'heure, quand on... J'ai toujours aimé la politique aussi, mais jamais pour en faire de façon active. Je trouve que le fun arrête au moment où on commence à en faire.
Vous avez probablement raison. Je pourrais vous en parler.
Donc, de rester en marge, puis d'en parler, tout ça, c'est intéressant. Puis, on ne peut pas comprendre la politique si d'abord et avant tout, on ne comprend pas l'économie. Puis, à l'époque, moi, je voulais me diriger dans les médias, puis comme journaliste. Et un orienteur me dit, si tu veux être journaliste, va faire une étude, des études en sciences politiques. Ouais, mais y a-t-il d'autres choses? Il dit, administration, ils disent, non, ça commence, on en a besoin, parce qu'on parle de 1970. Commence à y avoir des besoins pour des administrateurs. Fait que je me suis inscrit au HEC, ils m'ont accepté. Et là, j'ai étudié l'administration, le marketing, mais aussi l'économie. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai fait une spécialisation. Et c'est une science basée sur les mathématiques. Bon, je suis pas pire en mathématiques. Mais honnêtement, pour travailler là-dedans, faut avoir une passion de mathématicien. Puis moi, je suis toujours demeuré un gars de communication, de toute façon. C'était le but, c'était de revenir en journalisme.
Mais avec un bagage additionnel.
Mais avec un super de bagage.
Et vous avez animé d'ailleurs une émission, même à cette antenne à caractère économique.
Oui. D'ailleurs, c'était ma deuxième, parce que j'ai été probablement le premier au Québec à avoir une quotidienne sur l'économie à CKVL, quand je suis retourné à CKVL en 84. Mais c'était de la première fois, et je me rappellerai toujours que j'avais présenté ça au directeur de l'information, au directeur de la programmation, faire une émission sur l'économie. Aujourd'hui, ça va, tout le monde est habitué d'en entendre, mais à l'époque, l'économie, c'est l'argent, la bourse, non, ça n'intéresse pas. Non, j'ai dit, écoutez, là, le matin, quand vous vous levez, là, vous avez un grille-pain, il y a quelqu'un qui fait le grille-pain, puis après ça, vous mettez des tranches de pain, il y a quelqu'un qui fabrique le pain. Oh, il dit ça, j'aime ça. Parfait, il dit, je te redonne des nouvelles. Alors, donne pas de nouvelles pendant une semaine, deux semaines. Il reçoit un appel jeudi, il dit, j'ai deux choses. Il dit, d'abord, premièrement, il dit, tu commences lundi, l'émission d'économie. Puis deuxièmement, il dit, on a besoin des petits topos de 10 minutes, là, parce que la bourse vient de planter. Il dit, on aura besoin de ça pour midi, il est 10 heures. C'est comme ça que j'ai commencé.
C'est extraordinaire.
C'est assez extraordinaire. Puis il dit, c'est une quotidienne, pas de recherchiste non plus. Moi, j'arrive, bang! Alors, tu sais quand...
Mais c'est une bonne école. On peut le dire. Prochaine chanson, Shirley Theroux. Chanson extraordinaire de Brel. Mais vous avez choisi l'interprétation de Shirley Theroux.
Ouais.
Voir un ami pleurer.
Ah, moi, je trouve, j'en ai entendu, il y a beaucoup d'interprètes qui l'ont faite, entre autres, évidemment, Jacques Brel, qui reste toujours dans une classe à part, Morane l'a faite, d'autres artistes l'ont faite aussi, cette chanson-là, mais récemment, j'ai découvert la version de Shirley Theroux. Et en même temps que l'on voit toute l'émotion passer dans sa voix, on voit aussi à quel point le métier, la technique, la maîtrise de la voix, cette voix reste un âge respectable. Mais on ne sent pas de faiblesse dans la voix. Quand même, elle chante cette voix avec coffre, mais ça nous enveloppe. Et quelle émotion! Quelle émotion! C'est avec son ancien... son ami Georges Tremblay, qui est décédé, je pense, en 2016. Mais quelle émotion! C'est arrivé quelques mois avant qu'il décède.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. bien sûr, tout ce manque de tendre. Il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur nous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami. Nos défaites, puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les hommes infidèles. Les oiseaux assassinés, bien sûr nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr ces villes épuisées. Notre impuissance à les aider, nos amours qui ont mal autant. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami.
Vous aviez dit juste, Michel, c'est une chanson qui vient rejoindre une grande sensibilité dans notre petit cœur, parce que c'est une chanson qui est profondément poignante au sens littéral du terme. Voir un ami pleurer, il n'y a rien de pire que de voir un ami pleurer.
C'est une chanson d'homme.
Oui.
C'est un ami pleurer. Oui, voilà. Pourquoi? Ben, c'est sûr que c'est un tabou hein, chez les hommes. À l'époque, ça a été écrit. Et
parce qu'on parle peu de nos sentiments.
Ben non, on parle pas de ça. Et puis c'était, je ne sais pas en quelle année Brel l'a écrite, là, mais quoi, début des années 60 peut-être. Et à cette époque-là, évidemment, il n'était pas question d'exprimer des sentiments chez les hommes. Voir un ami pleurer, c'est ce qu'il dit finalement.
Voilà que Michel devient sérieux. Est-ce que vous êtes de ceux qui exprimez...
Profitez-en, ce sera pas long.
Est-ce que vous êtes de ceux qui exprimez facilement vos émotions? Est-ce que l'amitié pour vous c'est important?
Oui, mais est-ce que je non, je suis de la génération de mon père, donc exprimer facilement les émotions non. Mais tu sais, avant d'exprimer les émotions, il faut d'abord commencer à penser à les exprimer. Et c'est tellement pas dans l'habitude que on développe même pas ce réflexe. Les pères de famille de l'époque de mon père et puis de ceux qui ont mon âge, ils communiquent pas leurs émotions. Surtout pas si avec des garçons. Tu sais, ça reste Ouais, ben si je dis que je l'aime, ça ne sera pas bien perçu. Non, on n'ose pas ça. Ça reste toujours plus difficile. Mais aujourd'hui, les jeunes pères de famille vont davantage dans l'expression des émotions. Parce qu'à la limite, une émotion, c'est une information. Puis si tu ne l'exprimes pas, mais les autres n'auront pas d'informations.
Est-ce que vous vous liez facilement d'amitié?
Non.
Non, la réponse est claire. Donc, vos amis sont peu nombreux, mais ils sont probablement très importants.
Ben oui, c'est très... Moi, je pense, d'abord, premièrement, j'aime beaucoup la solitude. D'ailleurs, il faut aimer ça pour être seul en studio le matin.
Mais avec des milliers d'auditeurs, des millions d'auditeurs
qui
nous écoutent.
Oui, mais ils ne sont pas là. Tu sais, ils arrivent le matin là, dans le studio, ils disent, oh, mon Dieu, je suis seul. Mais non, je ne déteste pas la solitude, donc je n'ai pas ce besoin à tout prix.
Êtes-vous un être méditatif?
Beaucoup.
Beaucoup.
Ben ça, c'est le propre aussi de la solitude. Ça permet ça. Un jour ou l'autre, tu te dis, coudonc, pourquoi j'aime ça, être seul? Et tu commences à tomber un peu plus en profondeur et en méditation, et tu te regardes un peu les émotions, et tu te regardes un peu la recherche spirituelle, finalement.
There's a light upon the mountains and the day is at the spring. When our eyes shall see the wonder and the glory it will bring. Et laudate Domino in laetitia, et cantate Domino gloria, secula.
Suivez un peu ce que vous disiez, ce qu'on vient d'entendre.
Ouais.
C'est vous d'ailleurs qui nous l'a proposé.
Oui.
C'est une belle découverte, ça aussi, Libéra.
Oui. Oui, c'est une très, très belle découverte, Libera. Et c'est des chansons... c'est un cœur de jeune garçon, mais quelle belle interprétation. C'est splendide. Ça vient chercher aussi l'aspect un peu plus spirituel, un peu plus... Mais en même temps, il y a une... c'est très aérien comme interprétation.
Alors, poursuivons quand même sur le sujet que nous avions amorcé. Vous travaillez donc dans une station dite religieuse.
Oui.
Certains pourraient dire, oh, c'est pas très sérieux quand on se retrouve dans une station comme VM, mais Dieu sait qu'ici, oui, c'est beaucoup une radio, oui, de réflexion.
La première chose qu'ils m'ont demandé, est-ce que vous commettez des péchés? Je dis, oui, abondamment, il n'y a pas de problème.
Alors, ils vous embauchent.
Toute une brebis égarée, on va le ramener.
Mais nonobstant le fait que ce soit une radio religieuse, cela ne nous interdit pas, quand on anime une émission de matin, d'aborder tous les sujets.
Non.
Contrairement à ce que bien des gens peuvent croire.
Oui. Oui, parce que le mot... Ben, au Québec, on a un problème de choc post-traumatique avec l'Église catholique. Il est temps qu'on en finisse, là. Parce que, bon... Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'on ne reconnaît même pas la part quand même de l'Église catholique. Il faut dire que Jeanne Mance était là, puis si Jeanne Mance n'avait pas été là, Pierre de Maisonneuve n'aurait pas été là, parce qu'il n'était pas question que je fonde une ville sans qu'il y ait un hôpital.
Ne serait-ce que pour la protection et la survie de la langue.
Oui, il y a ça. Oui, il y a eu des excès. Oui, il y a eu des choses tout à fait qu'on doit réprouver. Mais ce n'est pas que ça. Et l'autre aspect qui est le plus grave encore que de rejeter la religion catholique, c'est de rejeter toute la spiritualité. C'est que, ben, en fait, les gens ne la rejettent pas. On sait que les gens se posent des questions. Et l'humain qui a soif de justice, qui a soif d'équité, qui se demande pourquoi ses enfants sont partis, pourquoi ses enfants y parlent plus, ou qui se demande pourquoi aujourd'hui on est dans l'artificiel, c'est des questions d'ordre spirituel, ça.
C'est la quête de sens.
C'est la quête de sens qui ne change pas. Et chez les jeunes, on retrouve actuellement cette recherche... Ils sont bien plus ouverts à ça qu'on pouvait l'être à notre époque. Nous, on n'a pas ben choix, mais il y a eu une époque où c'était carrément tabou. Mais là, actuellement, on voit que chez les jeunes, ils ne se gênent pas pour en parler.
Barcelona.
Ah, boy, 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 ça, là. Ça, c'est l'autre affaire. C'est l'autre test pour savoir si vous êtes mort. Parce que vous allez avoir des frissons. Ça, Barcelona, c'est la rencontre d'abord extraordinaire entre deux extrêmes aussi, en temps musical. Deux artistes extraordinaires, chacun très typé. Montserrat Caballé, quel soprano.
Qu'on appelait la superbe.
Ah, la superbe. Et c'est une soprano catalane, en plus.
Avec tout ce qu'on sait d'actualité.
Je ne sais pas si elle est indépendantiste. Et Freddie Mercury.
The Queen,
assez connu aussi, je pense, la plupart des auditeurs.
Décédé, hélas, très jeune, à l'âge de 45 ans, du VIH.
Ben oui, c'est ça. Et ils se sont rencontrés comme par hasard. Il avait écrit une chanson. Il a toujours été un amateur d'opéra, lui. Et il a écrit une chanson, puis il est allé la faire écouter à Montserrat Caballé. C'est pas Barcelone, mais il y a eu une rencontre improbable. C'est assez drôle parce que les deux se rencontrent dans un restaurant. Ils disent, oui, c'est correct, je suis prêt à vous rencontrer. Mutuellement, ils se disent, d'accord, se fixent un rendez-vous au resto. Et puis, pendant un certain temps, personne ne parle. Parce que les deux avaient une admiration extraordinaire l'un pour l'autre. Et finalement, ben, ils ont mis à parler de musique. Il a fait jouer cette première pièce qu'il avait écrite pour elle. Et a dit, je veux faire un album avec vous. Ensuite, il a écrit Barcelona, justement. C'était pas en prévision des Jeux
olympiques. Non, c'est avant. Hein?
C'est bien avant. C'est trois ou quatre ans.
Exact.
Avant. Et ils ont fait une première interview. Et ça a été un succès phénoménal en Europe. Et l'amalgame des voix, les duos, c'est pas toujours réussi. Moi, je vous dirais que 9 duos sur 10 sont assez ratés.
Je partage votre avis.
Et celui-là, en particulier, puis pourtant, ils ne perdent pas leur personnalité. Quelle fusion extraordinaire, mais quelle chanson extraordinaire. Et ben, il n'a pas pu l'interpréter aux Jeux
Olympiques.
C'est
un hymne, ça aussi.
C'est un hymne, effectivement. C'est un hymne à faire frémir. C'est extraordinaire. Il faut l'écouter, cette chanson-là. Je pense que, je me tais.
Voilà.
Barcelona. this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hay veces no sé.
I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation, my guide and inspiration.
Mais avant que vous vous taisiez complètement, Michel, j'ai une petite question très rapide. Vous connaissez, parce que c'est l'économiste, on a 30 secondes pour y répondre.
Oui.
Que pensez-vous de cet engouement pour les crypto-monnaies?
Ah, ben c'est comme la bulle techno. Faire attention avec ces modes passagères où on ne sait pas trop où on s'en va. Et puis, c'est l'économie souterraine, hein? C'est de l'évasion fiscale pure, c'est des Panama Papers, alors faire très attention avec ces affaires-là.
Alors, si on veut en savoir davantage, on écoute bien sûr Michel à Debout VM.
On n'achète pas des bitcoins.
Après, on n'en achète pas, puis on écoutera probablement son prochain invité économique qui fera probablement encore une
fois. Ah, bon, on en a eu un qui nous a expliqué de long en large comment ça fonctionnait, ces affaires-là.
Mais vous allez sûrement revenir à la charge parce qu'il y a quand même un engouement assez extraordinaire à l'égard de tout cela. Michel, on vous souhaite un très vif succès,
hein?
C'est déjà la fin.
M'envoyez chez nous.
C'est parce qu'il faut que vous prépariez votre émission pour demain matin.
Oui, c'est ça. Il faut que je reste encore ici. Bon.
Un grand plaisir de vous avoir reçu.
Oui.
Et on va se quitter avec... Vous m'avez parlé tantôt de Marie-Nicole Lemieux.
Oui.
Alors, on vient d'aller chercher une pièce de Marie-Nicole Lemieux. Et je trouve que ça vous convient bien. C'est un extrait de la lettre de Madame Roy à sa fille Gabrielle. Et la pièce a pour titre... Courte semaine, parce que vos semaines sont courtes. Vous n'êtes pas là le vendredi.
Les heures sont longues, mais les semaines sont courtes.
Bon succès. Merci beaucoup,
merci
Michel, de ce passage.
C'est un plaisir.
Cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Julia Borès. Armand Dubois qui vous souhaite une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas d'être au rendez-vous de Michel
demain. Debout VM à 7 heures.
Voilà.
C'est un rendez-vous.
Merci, Michel.
Le jour sont les semaines sont courtes, c'est l'étonnant de découverte que je viens de faire. Depuis que tu es parti, ma nous sommes samedi.
Que tu es parti, ma gloire.